Alors, merci à tous d'être venus nombreux. Ça me fait très plaisir pour assister à cette rencontre, je pense, exceptionnelle, avec Anne-Laure Bandeau qui nous fait le grand honneur. Ça me fait vraiment très, très plaisir de vous recevoir. Donc, Anne-Laure Bandeau est parmi nous aujourd'hui pour son dernier livre qui s'appelle « Tant que nous sommes vivants », donc un très beau titre.
Ah, merci, parce déjà que le titre, c'est toujours un grand souci. Et en général, je ne l'ai pas avant de commencer, ni même en cours de route. Et celui-là, je l'ai trouvé après avoir fini le livre. Et oui, j'en suis contente.
Il y avait d'autres possibilités ?
Oui, j'ai un petit carnet que je vous montrerai, avec des listes et des listes de titres que je cherchais quand je commençais à sentir la fin arriver. Et celui-là est arrivé vraiment en toute dernière minute. Donc, je ne sais pas s'il vous plaît, mais en tout cas, moi, il m'a tout de suite plu, voilà.
Moi, il m'a beaucoup plu aussi tout de suite. Tu le sais, c'est un roman que j'attendais avec fébrilité, comme beaucoup de tes fidèles lecteurs, parce que depuis le temps des miracles, 5 ans avaient passé. Donc, il y avait eu entre un livre plutôt à destination des adultes, qui s'appelle
L'autre moitié de moi-même.
L'autre moitié de moi-même, qui était plutôt un témoignage en forme d'autobiographie qui disait haut et froid, quand je l'ai lu, combien l'inspiration te faisait soudain défaut suite à des bouleversements personnels et intimes. Donc, le temps a passé et tout à coup, donc, sur les argumentaires des représentants, on a vu apparaître à nouveau le nom d'Anne-Laure Bandeau. Et donc, en ouvrant ce livre, d'abord, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai regardé cette couverture qui est étonnante, où beaucoup de choses se passent, où en fait on a tout l'univers de l'histoire qui est là. Donc il y a une usine, il y a des personnages qui marchent, il y a des routes, il y a des montagnes, il y a des personnages qui courent, il y a des animaux, il y a un bateau avec des canons, il y a la campagne, il y a une mine, il y a des hommes qui travaillent. Il n'y a pas la main. Par contre.
Ah ben non, parce que là, c'était trop fin.
C'était
pour
difficile.
L'illustratrice, elle a travaillé avec des papiers découpés. Le livre tel que vous le voyez là, donc c'est vraiment... moi, elle m'a offert l'original de la couverture que je suis en train de faire encadrer. J'espère que l'encadreur ne va pas me perdre le document. Et donc, c'est un papier découpé au laser. Parce que c'est tellement fin, donc il y a apparemment des gens qui se spécialisent maintenant dans ces découpes. Et donc j'ai vu son travail, et je pense que représenter les mains des personnages à cette échelle, c'était quand même un peu difficile.
Donc on reviendra sur le thème de la main, qui est un des thèmes centraux du roman. Est-ce qu'on peut dire, après l'autre moitié de moi-même, et donc après le temps des miracles, que c'est le roman du renouveau, un petit peu ?
Alors oui, complètement, c'est le roman c'est la suite en fait de mes romans, sauf que là, cette fois-ci, il y a davantage de conscience de ma part de ce que c'est qu'écrire, même si, donc ça doit faire peut-être le 10e livre à peu près qui est publié, et puis donc une 15aine d'années que je publie. Donc, bien entendu, c'est ça a toujours été un sujet de réflexion pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Qu'est-ce que ça implique ? Pourquoi j'écris, bien entendu ? Bon, toutes ces questions-là. Mais cette fois-ci, suite justement à ces fameux bouleversements évoqués par Véronique, je pense qu'il y a des choses qui ont surgi, qui sont devenues beaucoup plus conscientes. Et comme, à un moment donné, je n'avais plus ni le désir d'écrire, ni la force de le faire... de le retrouver, ce désir, de retrouver cette force, c'est passé par une métamorphose quand même. Donc en fait, au cœur de ce roman-là, il y avait tout mon questionnement sur l'écriture. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent la création. Là, même si c'est une création en général manuelle, justement, on a évoqué déjà la main, pour moi, c'était symboliquement le travail de création tel que je l'ai moi-même vécu dans les souterrains. De mon intériorité psychique et même corporelle. Donc j'ai travaillé toutes ces notions-là de façon plus consciente que je ne l'avais fait dans les romans précédents où j'étais sur une lancée, j'étais plus jeune, je suis pas encore très vieille, mais bon, j'étais dans une énergie différente, je crois, portée par mes aspirations d'adolescente encore. Mmh. Puisque pendant le déjeuner, j'expliquais à Véronique, voilà, je suis née avec cette mission pratiquement d'écriture héritée de mon propre père, qui voulait être écrivain et qui n'a pas publié. Il a toujours écrit, mais il n'a pas mené à bien ce rêve qu'il avait lui-même de devenir écrivain. Et donc, moi, je me suis sentie vraiment, je pense, née pour réaliser le rêve paternel. Je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous d'hériter des rêves des parents. Et du coup, j'étais encore dans cette énergie d'enfant, d'adolescente, qui un peu, vous voyez, le taureau qui avance ou le bulldozer qui trace sa route sans trop réfléchir. Ce qui m'a apporté d'ailleurs beaucoup de choses, parce que ça m'a donné justement cette force de pouvoir surmonter les nombreux refus des maisons d'édition quand j'étais plus jeune, etc. Mais arrive un moment où cette force-là, elle s'épuise un petit peu. Donc je pense que voilà, il y a eu un passage, et j'aime bien cette idée que ce soit un roman du renouveau, oui. Mmh. Notamment accompagné par un changement d'éditeur. Enfin, il y a beaucoup de choses très symboliques et très fortes pour moi dans ce roman-là, bien sûr.
Avant de parler du cœur de l'histoire, dont je te laisserai faire le pitch.
Waouh, ça c'est difficile, mais je vais
essayer. Oui, c'est pour ça que je te laisse faire. On a un ton qui est quand même donné dès l'ouverture du roman par ce choix du narrateur, qui est peu habituel, puisque c'est la première personne du pluriel qui va donner le ton, c'est le ton du conte aussi. Et donc, le narrateur, c'est nous. Pourquoi ce choix et pourquoi le conte, finalement, pour aborder
Alors, c'est vrai que l'écriture est venue avec ce « nous ». C'était pas très élaboré. Moi, quand je commence un roman, je sais pas où je vais. Hein. Donc, ça, je conserve cette façon de faire, qui n'est qu'une façon de faire parmi d'autres. C'est pas la seule. Hein. J'ai plein de camarades écrivains qui ont, au contraire, une idée assez précise de là où ils veulent aller, voir qui élabore un plan. Enfin bon, il n'y a pas une seule façon de procéder. La mienne consiste à ne pas savoir où je vais et à d'ailleurs prendre du plaisir à ne pas savoir où je vais, même si ce plaisir comporte une partie angoissante, bien entendu, parce que parfois on se retrouve à vraiment se dire, mais là, je suis perdue, je sais pas du tout comment je vais me sortir de ce pétrin. Et voilà. Mais disons que voilà, je suis souvent emmenée dans l'écriture par d'abord la musique de quelque chose. C'est-à-dire, ça va être la première phrase souvent, qui est la matrice du reste, qui donne le ton, qui donne l'ancrage du roman. Et ce « nous » est venu et s'est imposé. Alors, en fait, comme bien souvent, c'est aussi un héritage d'autre chose. Et je me suis rendu compte, un peu en cours de route, que j'avais été très marquée par un roman assez récent, que je vous recommande chaudement, qui a eu le prix Femina étranger il y a quelques années de ça, qui est un roman d'une Américaine, mais qui porte un nom japonais, dont je vais essayer de me souvenir, et qui s'appelle, le roman s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer ».
C'est Otsuka.
Otsuka, mmh. Voilà, Julie Otsuka, mmh. Qui est un court roman paru chez Phébus et qui relate l'histoire d'un groupe de femmes japonaises qui ont été mariées à distance à des Japonais qui avaient migré aux États-Unis après la guerre. Et donc, ces femmes partaient en bateau avec la photo de leur futur mari, en ne l'ayant jamais rencontré. Et donc, on les suit en groupe depuis leur embarquement du Japon jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. Et puis, chacune se retrouve avec, parfois, coup de peau, un homme qui leur plaît. Et puis, parfois, non. Et c'est un roman qui est construit vraiment sur ce collectif de ces femmes, et donc il y a ce nous. Et il m'avait fortement impressionné ce nous, cette prise de parole au nom d'un groupe. Alors quand j'ai commencé mon roman à moi, je n'ai pas tout de suite pensé à Julie Otsuka, que j'avais lu peut-être un ou deux ans avant, Mais il est venu comme ça. Et il se trouve que j'avais envie, dans ce roman, de porter la parole, oui, d'un groupe autant que de personnages individuels. Parce que je considère qu'on est tous, c'est pas une nouveauté, hein, mais bon, j'avais envie de le marquer de cette façon-là, on est tous en interaction avec notre environnement très fortement. Moi, j'ai pris conscience que ma famille m'avait façonnée, mais qu'au-delà de ma famille, c'était, bien entendu, le pays dans lequel je suis née, la langue, bien entendu, dans laquelle j'évolue depuis ma naissance. Et puis, au-delà de ça, par exemple, l'Europe. Parce que j'ai eu la chance de voyager un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même ces dernières années, et de me rendre compte, quand on est loin de l'Europe, à quel point l'Europe a une identité culturelle très forte, et dont je suis dépositaire sans m'en rendre compte, parce que quand je suis prise dedans, bon ben voilà, on communique, parce qu'on voilà, on parle la même langue, on a à peu près les mêmes bases culturelles, mais quand on s'éloigne, on s'aperçoit que c'est très fort ça. Donc j'avais envie de parler de ces héritages-là au nom à la fois de ce collectif et puis de l'individuel, sachant qu'en plus donc il y avait toutes ces dimensions de conte qui commençaient à germer en moi. Le conte souvent est un récit collectif. C'est le récit du coin du feu tel qu'on l'imagine. Donc on parle au nom d'une communauté. J'avais aussi réfléchi à l'idée que les mythologies, pardon, je suis un peu brouillonne, mais j'ai réfléchi à ce que c'était notamment que Hollywood. c'est-à-dire qu'on est baigné dans cette culture américaine à travers le cinéma depuis bien, bien, bien longtemps. Et ils nous balancent leur mythologie, leur façon de voir à travers des histoires. Alors moi, ça m'intéresse parce que j'écris des histoires. Et la façon de faire américaine, elle est remarquable. Elle est souvent avec des rouages, c'est hyper bien fait. Enfin voilà, je suis admirative. Et moi, je ne suis pas scénariste de Hollywood, je ne sais pas faire. Et il se trouve qu'il y a quelques années, en me disant « Bon, Anne-Laure, il faut que tu continues de progresser dans ton métier », je me suis acheté un ouvrage d'un scénariste américain, très connu, qui a écrit une sorte de manuel d'écriture du scénario dans lequel il pose des bases. Alors, c'est complètement à l'américaine, hein, c'est-à-dire, bon, ben voilà, vous prenez ci, vous prenez ça, vous faites comme ça, et puis vous mélangez tout ça, puis vous aurez un scénario formidable. Bon, chose qu'on n'apprend pas du tout en France, parce que, alors si, un peu maintenant, dans le scénario, justement, pour la télé, le cinéma, on s'imprègne de ça, mais sinon, en France, pour l'écriture du roman, on reste sur des idées très romantiques, de l'inspiration qui nous foudroie, qui nous traverse, qui nous dépasse. C'est Hugo, c'est Chateaubriand, etc. Et moi, je suis un peu à mi-chemin. C'est-à-dire que oui, cette inspiration qui foudroie, qui traverse et tout ça, je l'ai déjà ressenti. Donc, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. En même temps, il y a un côté artisanal à tout ça et une façon de réfléchir à ce qu'on est en train de faire qui peut être plus structuré. Donc moi, j'avais envie de mélanger un peu les deux. Et donc, je me suis dit que Hollywood, sachant qu'ils ont cette puissance comme ça de récit, modèle notre façon d'aborder les histoires et du coup, c'est pas notre culture en fait à nous, Européens. Donc j'avais envie de récupérer aussi sur un territoire français et européen des façons de faire qui soient justement peut-être pas aussi bien huilées que dans Hollywood, dans les façons de faire hollywoodiennes, etc. Et de pouvoir parler au nom d'un collectif qui n'était pas issu de la culture américaine, quoi, d'être dans un ancrage de contes, de traditions européennes. Donc tout ça, c'était sous-jacent à mon écriture. Hein. C'était pas, j'avais pas envie de faire une thèse, hein, puis j'en serais pas capable. Mais voilà, c'est pour vous expliquer le pourquoi de ce « nous » qui était mêlé donc, de tout ce que je viens de raconter. Quoi.
Alors le « nous » va devenir « je » au fil du roman, donc à partir de la deuxième partie. Et finalement, ça révèle aussi cette espèce de construction avec une opposition constante. On a le silence et le bruit, l'ombre et la lumière, le possible et l'impossible. On a aussi le collectif et l'individuel, donc le nous et le je. Donc dans le roman, tout résonne, la forme résonne avec le sens. Et donc, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de plan au
Non.
début. Donc, tu t'es laissé surprendre.
Ah oui, complètement, oui.
Ce qui me fascine toujours un peu quand
Alors, ça suppose après de revenir en arrière,
j'imagine.
Malgré tout, j'ai pas eu trop à le faire quand même, parce que je pense que un roman, alors ça c'est dans mon expérience aussi, hein, ça ne vaut que par cette expérience justement, c'est pas, ça se théorise peut-être pas. Je pense que quand un roman il est suffisamment prêt, donc ces fameuses 5 années qui se sont écoulées entre le précédent roman et celui-ci, ça a été des années de maturation aussi très intense, et je pense que justement ce temps-là de maturation fait que Il y a des choses qui se solidifient, renforcent au fur et à mesure, de façon inconsciente, c'est-à-dire en tâche de fond, quoi, on dirait dans un ordinateur, on lance le processus, et puis sans qu'on s'en rende compte, comme je le disais l'autre jour à des plus jeunes pour qu'ils comprennent, ça se télécharge tout seul, quoi. Pendant ce temps, on fait autre chose. Lire, écrire, chanter, danser, peu importe. Mais pendant ce temps, il y a quelque chose qui se télécharge, on ne sait pas très bien quoi. Et du coup, quand on prend le temps de laisser mûrir ça, même si on n'a pas un plan, il y a des choses qui sont suffisamment présentes, suffisamment prêtes, en fait, pour pouvoir être posées sur le papier sans que ce soit trop branlant. Toute la difficulté, c'est de prendre ce temps-là. Quand on est pressé par soit des raisons économiques, soit parce que voilà, un éditeur vous dit « mais ce serait bien que tu sortes un bouquin à tel moment », etc. On doit accélérer ce processus. C'est comme pour les légumes et tout ça. Ça devient du transgénique ou du sous-serre. C'est peut-être moins bon, quoi. Après, chaque écrivain, chaque personne a son rythme. Moi, il se trouve que je suis assez lente. Mais bon, voilà, ça peut. Il y a peut-être des moments de fulgurance, j'espère, qui m'arriveront. Mais j'ai généralement besoin de pas mal de temps. Et donc là, je l'avais pris ce temps. Donc si bien que partir sans plan, ça m'inquiétait pas trop. Parce que finalement, la vie, elle a pas trop de plan non plus. On fait un peu comme on peut. On se dit ah d'accord, ça c'est en train d'arriver. Donc je vais faire en sorte de suivre le mouvement. Donc pour moi l'écriture est absolument indissociable de ma façon de vivre et cette improvisation liée à la vie elle-même. Ben, finalement je la retrouve dans le processus d'écriture et j'adore ça. Avec tous les choses trappes que ça comporte, effectivement. Donc, je me suis retrouvée bloquée à différents moments, à ne pas savoir où j'allais, etc. Bon, on finit par trouver. Et puis, bon, là, il y a un peu d'expérience aussi qui fait que quand j'avance, je vois assez vite que ça va être une impasse. Ou, voilà. Donc, je bénéficie maintenant d'un petit peu d'expérience, mais cela dit, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais après, ça a donné des loupés aussi. Hein, donc. De temps en temps, ça loupe pas trop. Donc, je ne sais plus si j'ai bien répondu à la question posée, parce que je m'égare.
Non, jusqu'à présent, tout va bien.
Comme je viens de vous dire, d'ailleurs.
Non, ça me semble très cohérent, tout ça. Donc, vous allez me dire, quand est-ce qu'on parle de ce roman en détail ? Là, on n'arrête pas d'en parler, mais on parle plutôt inspiration, écriture, ce qui me semble important aussi. Alors, ce pitch. Qu'est-ce que c'est que, tant que nous sommes vivants, quelle est cette histoire ? Moi, quand j'en parle, à chaque fois, quasiment à chaque fois, sauf hier où j'ai dit deux phrases, je ne sais plus lesquelles, la dame a dit « Oh, c'est formidable, merci madame !» Et elle est partie. Elle était enchantée. Hein.
Mais alors, c'était lesquelles ?
J'ai eu le son, je ne sais plus.
Il faut les retrouver.
Mais pour moi, ce n'était pas satisfaisant. Mais ça, elle avait l'air très, très contente, en pleine confiance. À chaque fois que j'en ai parlé, sinon... Les gens m'ont souvent dit « Arrêtez-vous, vous allez me dire la fin. » Je dis « Mais non, là, je ne suis même pas page 30. » Et je ne vous ai pas dit tout ce qui s'était passé jusqu'à la page 30, pourtant. C'est un roman où, tout de suite, on est dans une ambiance, où tout de suite, les premières pages, je les ai lues à l'arrêt du tram, dès que je l'ai eu le soir en sortant. Je fais, Et j'ai eu la gorge nouée, j'avais les larmes qui commençaient à... qui étaient pas loin, quoi. Donc j'ai arrêté, je ne vais pas me ridiculiser quand même. Et donc j'ai gardé ça pour un moment plus intime. Et donc quand j'en parle, on me dit, mais vous en dites trop, parce que tout se passe, tu fais des phrases qui sont des... Il y a quelques descriptions, mais on est tout de suite au cœur du sujet. Mais pourquoi, comment? Comment ça se fait?
Waouh, comment ça
c'est un prologue, ouais. Certains l'ont lu parmi vous. C'est un prologue extraordinaire, les deux premières pages, là, cette situation de crise, l'opulence et puis le vide. Déjà, on est sur l'opposition. Et puis, jusqu'à la page 30, on a l'impression qu'il se passe trois vies. Et en fait, il se passe 30 pages.
Alors justement, moi, c'était peut-être un peu ma seule crainte, c'était justement d'être dans quelque chose de trop dense. Donc peut-être que certains lecteurs vont justement peut-être ressentir ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'avais cette densité comme ça. J'avais besoin de la et puis de la raconter en peu. Voilà, c'est ça, d'être dans des petits paragraphes. Avec des ellipses souvent, pour avancer de façon dense dans cette histoire. Ce que j'avais comme image de départ, bon, je vis comme vous dans le monde d'aujourd'hui, puisque c'est l'avantage des auteurs vivants, c'est qu'on partage le même quotidien, le même environnement sonore, l'atmosphère, etc. Et donc, ça ne vous a pas échappé que ces dernières années, c'est un peu morose comme ambiance autour de soi et que ça nous imprègne tous. Et j'arrête pas d'entendre autour de moi des gens qui souffrent d'entendre toujours des mauvaises nouvelles et puis ce sentiment donc de déclin. C'est pour ça aussi que c'est européen, je pense, ce texte, et particulièrement peut-être français. Dans cette idée que on a connu cette splendeur de la culture française qui rayonnait, qui était voilà, et que aujourd'hui, depuis quelques années, voire décennies, on a le sentiment d'être en perte de vitesse, que la Chine va nous manger, que les États-Unis nous ont déjà bouffé tout cru, que voilà, et qu'on ne sait plus très bien qui on est, où on est, où on va. Alors là, encore moins. Et donc, ce sentiment collectif d'être dans un moment de faiblesse, quoi, d'un moment. Et donc, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir ces dernières années, c'est que ça, c'est du collectif, c'est la nation, ça se voit dans les urnes, à chaque élection ces dernières années, etc., qu'on est voilà, très... Moi, j'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui étaient très militants, politiques, et puis qui se retirent complètement, qui disent « mais moi, j'ai même plus envie d'aller voter ». Enfin, voilà, il y a tout ce processus-là qui nous atteint. Et donc, à l'échelle de l'individu, ça finit par retentir. Je vois autour de moi des familles qui sont pas bien, des gens qui sont pas bien, qui se remettent en cause dans leur vie. Et c'est terrible. C'est terrible de ressentir, du coup, dans les vies individuelles, ce poids de cette tristesse collective, alors qu'il y a tellement aussi de possibilités d'être en... d'être dans le positif, dans la lumière, dans la joie, etc. Et donc, c'est une histoire de désir, quoi. Donc, ça, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, à l'échelle de l'individu, il faut faire renaître le désir, au sens très large du terme, la libido, mais pas que, évidemment, sexuelle, mais bien que ce soit cette même énergie-là, c'est-à-dire qui pousse vers l'autre et qui pousse vers « j'ai envie de faire ça », ou « j'ai envie d'aller là », « j'ai l'envie ». Cette énergie formidable du désir qui semble donc s'éteindre plus on avance là, voilà, il y a plus ce désir de dans les individus, le désir on peut l'attiser, donner des petits coups de soufflet là pour faire renaître les braises et puis la flamme. Et donc ma première scène c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on est dans un collectif éteint. J'ai utilisé ce mot-là, parce que c'est vraiment ce que je ressentais. On est en train de s'éteindre, là. Et puis, deux personnages se rencontrent. Donc, un jeune homme et une jeune fille. Et là, il y a une flamme. Et c'est tout simplement l'amour. Parce que je crois que, finalement, à l'échelle de nos vies, à nous, individus, c'est l'amour qui l'emporte. C'est-à-dire, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous... transporte, c'est ce qui nous traverse, en tout cas moi, je suis vraiment pas la seule, parce que sinon on ferait pas des romans d'amour comme ça depuis des siècles. Et donc cette énergie de l'amour qui amène vers l'autre, on sait tous ce que c'est. Et même dans les périodes de crise les plus lourdes, les plus tristes, etc., heureusement les gens continuent de tomber amoureux. Et je crois que c'est ce qui nous... c'est ce qui nous motive finalement, ce qui nous sauve, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Alors donc voilà, j'avais envie de mettre en contrepoint ce collectif éteint et cette flamme qui se met à flamber comme ça dans le cœur de deux personnages et qui va irriguer, contaminer tout l'environnement, parce que je crois que l'amour a cette force-là de contamination. L'amour au sens large, hein, ça peut être l'amour au sens aussi d'aimer les autres, aimer ses enfants, aimer ce qu'on fait, voilà. Mais du coup, la force du désir, voilà. Donc j'avais envie de voir, en fait quand j'écris, je fais un peu des expériences de chimie, parce que j'étais nulle en chimie, mais c'est un peu la même chose. Je me dis, tiens, si je mettais un petit peu d'amour sur ce machin qui est froid et tout ça, qu'est-ce que ça va faire ? Et il y a eu une réaction chimique intéressante de voir, donc j'assiste en même temps que je le raconte, à ce qui se passe. Et par exemple, ce cabaret, il va y avoir un cabaret qui va réouvrir suite à ce coup de foudre, les gens ont de nouveau envie de s'amuser, enfin ça redonne voilà, des désirs, comme je disais. Et il y a un cabaret... style cabaret de Montmartre qui ouvre de nouveau. Donc les gens vont avoir envie de s'amuser. Et cette idée, elle est venue à mesure que j'écrivais. Donc c'est pour ça, voilà, tout cet univers de la ville, de l'usine et tout ça, il avait mûri en moi pour mille raisons. Par exemple, l'usine qui pourrait ressembler du fait qu'il y a après une catastrophe, sans aller trop loin dans le roman, il y a une catastrophe industrielle qui se produit. Certains lecteurs m'ont dit, ah, vous vous êtes inspiré de la catastrophe d'AZF à Toulouse. Pour les plus jeunes qui étaient... parce que je ne sais pas à quand ça remonte, mais AZF, c'était il y a peut-être 20 ans déjà. Hein.
Oh, pas tant.
Peut-être pas tant. Mmh. Vous vous en souvenez, les plus jeunes d'entre vous ? Non, non. Mmh. AZF, c'était donc une usine chimique qui était installée vraiment en périphérie de Toulouse, mais vraiment tout près de la ville, et qui a explosé... il y a donc peut-être 15 ans, je sais.
Oui, 2001. Ouais,
2001, d'accord. Ben, alors voilà, donc il y a à peine 15 ans, et qui a fait de nombreux morts et qui a vraiment modifié la ville. Enfin, ça a été un traumatisme très important à l'échelle collective à Toulouse. C'était 2001 exactement, oui, puisqu'on avait pensé que c'était peut-être un attentat suite au 11 septembre, effectivement. Et donc, j'ai pas pensé à AZF tout de suite, mais j'ai pensé à quelque chose qui m'a touchée, si on peut dire de plus près, dans l'histoire familiale, c'est-à-dire que mon grand-père travaillait dans une usine de poudre dans les années 30, qui était installée sur les bords de l'étang de Berre, près de Marseille. Et il venait d'arriver dans cette usine comme contremaître, et l'usine a explosé, parce qu'évidemment les usines de poudre, c'était des accidents assez fréquents, surtout dans ces années-là, on n'avait pas toutes les mesures de sécurité. Et lui a survécu, a dû sa survie à la présence d'un bassin de rétention d'eau qui l'a protégé du souffle. Mais il y a eu donc 53 morts lors de cette explosion. Et mon grand-père, s'il était mort, je ne serais pas là, puisqu'il n'avait pas encore conçu ma mère. Donc je me dis que ma vie a tenu à la présence aussi de cette cuve de rétention d'eau, sans quoi je ne serais pas là. Et du coup, connaissant cet épisode, j'ai le récit de mon grand-père, parce que ma mère lui avait demandé de raconter ses mémoires un petit peu dans un cahier et tout ça. J'ai des photos de l'usine avant et après, et je suis allée sur place aussi faire ma petite enquête. Donc j'ai récolté des documents, parce que je compte monter une sorte de petite conférence imagée pour pouvoir montrer tout ça à certaines occasions. Donc j'ai une petite vidéo, j'ai retrouvé la cuve en question, a priori d'après le responsable du site, ça pourrait être celle-là, etc. Et donc voilà, j'avais besoin aussi, pour appuyer ce roman, de nourrir les épisodes de cette histoire, d'événements familiaux comme ça, enfin, qui appartiennent à ma mythologie, à moi, en fait. Ouais. Donc pareil, la mythologie collective... Le déclin, tout ça, tout va mal, c'est la crise. Et puis la mythologie plus personnelle, liée à ma famille. Puis après, carrément individuelle, avec mes propres obsessions. Mais voilà, toujours cette espèce d'entonnoir comme ça, du grand vers le plus microscopique.
C'est un thème, les racines, hein, le noyau qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Il y a un très joli personnage. Alors, j'ai presque pas envie de parler d'eux, là, des petits hommes troglodytes.
Bah, c'est trop tard.
Pour laisser, mais pour laisser, pas plus que ça peut-être, pour laisser la surprise à ceux qui l'ont pas lu de cette découverte de ces personnages. Mais il y a un personnage qui s'appelle Douze et qui dit « Il n'y a pas de fruits sans noyau, nous avons toujours besoin de savoir d'où nous venons. » Donc il y a cette idée récurrente dans le roman. Et dans l'exergue, donc un roman en forme d'hommage aux ouvrières et aux ouvriers de ma famille. Alors notez que c'est le féminin qui commence, je pense que c'est pas anodin. Aux générations de femmes et d'hommes d'où je suis née, donc on en revient à ce que tu disais à l'instant, il y a à la fois l'intime, le collectif, la grande histoire avec un grand H, et puis la petite histoire personnelle qui se mêle. C'était là aussi la volonté de fouiller un petit peu ton histoire intime pour en faire quelque chose qui allait te dépasser.
Eh ben oui, parce que je me suis aperçue durant ces 5 années là, qui sont quand même fondatrices pour moi, c'est des années autour de la quarantaine, hein, donc là pour les plus jeunes, vous n'y êtes pas, mais qu'on pourrait mettre, alors pour les personnes qui pourraient y être ou avoir déjà dépassé ce moment de vie, mais qui peut se passer plus tard aussi. Je suppose qu'il voilà, c'est des moments de crise, mais justement pour les plus jeunes. Il y a l'équivalent au moment de l'adolescence et de l'âge adulte qui s'aborde, enfin qu'on aborde, qui est vraiment de se questionner sur qui on est, ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Enfin moi, je me suis posé exactement les mêmes questions avec un vécu du coup plus long, parce que voilà, j'avais justement 40 et pas 20 ans, mais de la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant de ma peau, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, est-ce que j'ai envie, bon, et ça passe très souvent par le fait de revenir à la source, c'est-à-dire pour savoir qui on est, c'est intéressant de se redemander qui on était quand on était enfant, quand on était adolescent, et au-delà de ça, j'ai découvert que qui je suis, ça suppose de s'interroger sur qui étaient mes parents. Et puis au-delà de ça, qui étaient mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, etc. Parce que je suis le fruit d'une chaîne humaine et d'une histoire collective, mais là, elle est donc transmissible, alors notamment par les femmes, ça vraiment, je l'ai ressenti. Et je me suis intéressée donc beaucoup à mon arbre généalogique qui me porte. Moi, je suis le fruit de cet arbre-là. Je croyais connaître un peu toute l'histoire de ma famille, et puis en fait, mes parents ne s'y intéressaient pas beaucoup, donc c'était pas un sujet. Et là, de nouveau, c'est devenu un sujet. J'ai retrouvé des photos de mon arrière-grand-mère morte en 1918, des photos qui m'ont émue aux larmes. Et j'ai retrouvé des documents et tout ça. Je me suis dit, mais je viens de là. C'était vivant d'un seul coup. C'était pas figé sur des photos. Ben, on a tous cette expérience. Ben, oui, c'est en noir et blanc, c'est vieux, dans des costumes qui ressemblent pas du tout à ce qu'on porte aujourd'hui. Ça a l'air d'appartenir à quelqu'un d'autre. Non. Et moi, j'ai eu envie de rendre une sorte de parole. Alors, je le fais modérément ou modestement dans ce livre, mais une parole à ces femmes dont je suis issue, c'est-à-dire que voilà, la mère de ma mère et la mère de ma grand-mère, etc., c'est d'elles dont je tiens. Et ça m'a vraiment émue aux larmes, je ne sais pas comment vous dire autrement, de me dire qu'avant moi, il y avait des femmes qui savaient ni lire ni écrire, par exemple, et aujourd'hui je suis écrivain, c'est étonnant. Et que même parmi les générations, donc ma grand-mère savait lire et écrire, mais elle avait été à l'école jusqu'à 12 ans. Puis après, elle s'est retrouvée ouvrière dans des usines de roulement à billes, à faire des tâches répétitives, à élever ses 5 enfants avec très peu d'argent, etc. Pour moi, c'est miraculeux aujourd'hui que je sois, moi, en train de me dire je mène ma vie comme ça en tant que femme, alors qu'il y a 2 générations... on faisait des enfants sans le vouloir, sans le désirer. C'est tout ça, ça me prend aux tripes. Voilà, donc j'avais envie de le faire sentir dans ce livre-là pour que le lecteur, en lisant, se dise mais oui, moi aussi j'ai un arbre, moi aussi j'ai des racines, moi aussi j'ai des ancêtres qui expliquent bien des choses dans ma vie à moi aujourd'hui, et en tout cas il y a une transmission des héritages qu'on qu'on accepte et puis d'autres qu'on refuse, par exemple. Tout ça, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on accepte, ce qu'on refuse, ce qu'on a envie de porter haut. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, mon grand-père, il était comme ci, comme ça, etc. » Puis il y a des choses qu'on passe sous silence. Pourquoi ? Voilà. Tout ça, ça m'a accompagnée toutes ces dernières années.
Tu as soigneusement évité le pitch.
Ah oui, bien sûr, évidemment.
J'y reviens parce qu'il faut quand même en parler. Donc, cette histoire donc, prend naissance dans une ville où règne en maître une usine. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si tu as lu ce roman, à D'Acier.
Si, bien sûr, j'ai adoré ce roman. Voilà. Deuxième conseil de lecture. Donc, certaines n'avaient pas vu La Mer. Oui. C'est le titre, ça, oui. Ouais. De Julie Otsuka chez Phébus, et puis bien sûr D'Acier de Sylvia Avallone.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Extraordinaire. Une Italienne, elle a 26 ans, elle est super jeune. Alors là, moi, ça m'a bluffée. Ouais. Un roman extraordinaire qui se passe donc dans une Italie post-industrielle, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie de mon bagage là.
Ouais. Oui. C'est dans l'un et l'autre des romans, l'usine sidérurgique chez Avallone et la usine d'armement dans Tant que nous sommes vivants sont des personnages à part entière. C'est une espèce d'ambiance très déshumanisée finalement, et c'est là que va naître l'amour comme une forme de subversion.
Absolument.
Presque, ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc au changement d'équipe, on a à peu près 200 hommes et femmes qui travaillent dans cette usine. Au changement d'équipe entre l'usine, entre le travail de nuit et le travail de jour, deux mains se frôlent, donc celle de Beau, le jeune homme, et celle d'Ama, dont tu parlais tout à l'heure. Et de cette étincelle va naître l'amour qui va faire redresser la tête de toute la communauté, de tous ces gens qui vivaient repliés sur eux-mêmes en essayant de protéger le peu qu'ils avaient désormais, puisque le travail n'existe plus, sauf là.
Voilà.
Et donc, ils réenchantent le dimanche, puisque c'est le dimanche qui est leur jour unique ensemble, leur jour de liberté, mais ensemble. Et ils réenchantent le monde avec la tache rouge de l'anorak de Beau, sur la place du village. J'ai été frappée dans le roman par l'absence de couleur. Sauf cet anorak rouge, sauf de temps en temps une langue bleue dans le ciel, une soirée
fleurs.
Mauve,
mais très peu.
L'hiver règne en maître. Il y a des très, très belles descriptions d'ailleurs de givre, d'hiver. Les couleurs sont ténues ou éteintes. Est-ce que tu as eu conscience de ça ou pas du tout ?
Alors, oui et non, parce que là, quand tu m'en parles, je me dis oui, c'est vrai. Mais heureusement, il y a plein de choses qui échappent hein, dans la création d'un roman, comme je vous le disais, d'autant plus quand on ne sait pas où on va. Mais par exemple, j'ai eu conscience que cet anorak rouge, la mention, alors déjà du mot anorak, et rouge, c'est vraiment un élément qui ressort, c'est-à-dire que c'est un élément récurrent dans le roman, l'anorak rouge de Beau, qui va faire partie de l'héritage beaucoup plus tard d'un autre personnage, oui, on va pas trop raconter. Et donc, oui, c'est une tache de couleur, c'est certain. Après, il y a le feu de la forge qui éclaire quand même cette noirceur, ces ténèbres. Voilà, donc c'est plus les contrastes de niveau de lumière qu'effectivement les couleurs. J'ai mentionné quelques fleurs parce que pour moi c'était important dans la partie autour de la presqu'île là où il y a des genêts en fleurs. Mais j'ai pas dû dire que c'était jaune. Je crois que je me trompe pas. Les genêts c'est jaune. mais dans genêts il y a jaune. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, je me rends compte que j'ai certainement très peu. Mais de toute façon, je décris peu dans mes romans en général. Ça a l'air comme ça d'être descriptif, mais en fait, finalement, peu.
Très peu.
Enfin, c'est avec une économie quand même de... Donc là, il y a des bruits, beaucoup, parce que l'usine fait du bruit, parce que... voilà, ça, j'étais sensible à tout ce qui était bruit. Et puis, il y a de vastes étendues. Ça, j'adore ça depuis longtemps. Donc, j'ai souvent des romans qui se passent sur des routes. Et ça, voilà, c'est un peu obsessionnel. Mais les couleurs, ouais, effectivement, cet anorak rouge qui est très très important, c'est comme une sorte de cœur, quoi. ou de larmes de sang, comme le voient les personnages au début. C'était important.
Est-ce que tu serais d'accord pour lire un petit passage?
Ah oui, volontiers.
Pour donner un petit aperçu du style. Le passage, justement, avant la grande catastrophe, sur laquelle on ne dira pas grand-chose, parce qu'il faut que vous alliez le lire. Ce petit passage sur les grands froids, donc le printemps tarde, ce petit paragraphe-là.
Nous étions à l'époque des derniers grands froids, épuisés par une longue période de température négative et par ce vent du nord, coriace, qui fouette les eaux et amasse les congères au bord des trottoirs. Durant la nuit, la neige était tombée en abondance sur la ville et l'haleine des cheminées flottait en écharpe au-dessus de nos maisons, évoquant 1000 drapeaux blancs que nous aurions agités dans l'espoir d'une trêve. Mais rien à faire, le printemps tardait. À son retour du cabaret, Beau était tellement ivre qu'il tituba à travers la chambre, jusqu'au lit. Il ne vit pas le petit mot que Ama avait punaisé sur le montant en bois et sans réfléchir, il retira ses chaussures pour s'allonger un instant, juste un instant. Il enfouit la tête sous l'oreiller et se laissa prendre par un sommeil si lourd qu'il n'entendit pas le réveil, ni même japper le chien qui réclamait sa gamelle. Les premières lueurs de l'aube irisèrent la fenêtre de la chambre où le givre avait dessiné des étoiles. Et une flaque de jour laiteuse gagna le lit. Beau ne bougea pas. Quand la sirène de l'usine lança sa longue plainte, il dormait toujours, loin de tout, le corps dans du ciment.
Je m'arrête là ? Je crois.
Mais ça me permet de vous dire juste un truc, parce que là, ça me refrappe en le lisant. C'est que ce texte, il est né... précisément quand même, il y a eu cette foudre dont je vous parlais tout à l'heure, romantique à la Victor Hugo, là, qui vous traverse. Bon, ça peut être des milliards de volts comme ça parfois sur des grosses choses. Mais là, moi, j'ai vécu un petit coup de foudre, un très important. Au musée d'Orsay, un jour où justement je commençais à me promener dans ma tête, dans cette usine et tout ça, dans cet univers, j'avais encore pas écrit une ligne. Je vais au musée d'Orsay et puis il y a des salles que j'aime bien, donc dans lesquelles je vais de temps en temps. Et comme souvent, on passe 1000 fois devant un tableau, on le voit pas, et puis la 1001e fois, pourquoi on le voit et on ne voit que lui. Et ce jour-là, je n'ai vu que ce tableau qui s'appelle Le Lit, qui est un tableau de Toulouse-Lautrec, vous regarderez sur vos téléphones, vos ordinateurs, un tableau de Toulouse-Lautrec qui s'appelle Le Lit. Et j'étais avec ma fille, j'ai une fille qui a 22 ans maintenant, donc c'était il y a 2 ans, elle avait une vingtaine d'années, et je l'ai bassinée avec le lit, elle me dit mais achète la reproduction et arrête de me parler de ce tableau, c'est agaçant. Donc j'ai fini par acheter une reproduction assez grande parce que ce jour-là, j'ai vu mes personnages apparaître. C'était Beau et Ama dans un lit. Et vous verrez cette lumière qui est rendue par la toile. Moi, ça m'a donné cette impression de lumière laiteuse, comme je dis justement, d'un dimanche matin d'hiver. Et de grasse matinée après une semaine de travail harassant. C'est ça que j'ai vu dans ce tableau. Deux personnes complètement épuisées et qui enfin se reposent et qui sont, vous voyez, on voit leur tête, mais enfoncée dans les plumes. Vous voyez les jours où vous ne pouvez plus bouger, vous êtes dans votre lit, je pense que ça doit vous évoquer quelque chose. Et vous vous dites, mais je reste là, il est hors de question que je mette un orteil par terre. Et c'est ça qu'on sent dans ce tableau. Outre l'amour qui semble unir les deux personnages, enfin que j'ai vu moi, j'ai vu cette fatigue, j'ai vu ce lit. Et donc là, quand je couche Beau, seul, là, cette fois-ci, dans la description que je vous ai lue, eh ben, y a tout ça, il y a le tableau de Toulouse-Lautrec, il y a ce corps dans du ciment comme ça, qui ne bouge plus. Et voilà, donc ça me permettait de vous dire voilà, les différents petits déclics qui se produisent de façon... magique un petit peu à l'écriture d'un roman. Et moi, j'adore ça. Si j'ai un plan, je peux pas vivre ça, je crois.
Oui.
Enfin, je crains de pas pouvoir le vivre.
Oui, pas de la même façon, en tout cas, c'est certain. Mmh. C'est un roman construit sur les oppositions, comme je disais tout à l'heure. Il y en a une qui est frappante, c'est l'ombre et la lumière. Tu parlais des éclairages qui sont très importants, c'est vrai, qui créent les ambiances, mais aussi qui disent des choses vraiment importantes sur les personnages, leurs états d'esprit, leur évolution, leurs craintes, leurs espoirs, etc. C'est aussi. Donc, c'est grâce à ça, à cette opposition entre ombre et lumière, qui va apparaître une thématique très importante qui est celle de l'ombre. Donc, il y a des choses qu'on va essayer de dire sans les dire.
Aussi. L'art de l'équilibriste.
Oui, c'est compliqué. J'ai pas envie de trop raconter le roman, de ne pas aller au-delà de cette catastrophe pour pas trop dévoiler. Je sais pas, à moins que tu aies envie de.
Non, parce que c'est vrai plus. Que. Oui, non, je pense que c'est on a raconté. La couverture, comme tu l'as parfaitement dit, relate. Les différentes ambiances, puisque le roman est construit en quatre parties. Donc la première partie, c'est la ville et l'usine. Ensuite, on part sur des grandes étendues désertiques dans une sorte de forêt sombre et on descend sous terre. Et puis ensuite, on remonte à la surface. On se retrouve dans un espace aquatique plutôt, enfin au bord d'une mer intérieure. Et puis ensuite, il y a encore... ça boucle, bon, on va pas dire trop. Donc voilà, vous avez l'idée de ces différentes ambiances. C'est pas la peine peut-être de raconter effectivement les événements se passent dans toutes les parties, mais effectivement d'évoquer peut-être des grands sujets ou je sais pas, c'est pas des sujets, mais voilà, c'est voilà des grands symboles. En fait, oui, dans ce roman, voyez la couverture en noir et blanc encore une fois de cette illustratrice dont je cite le nom, elle s'appelle Hélène Druvert. Elle a fait un travail vraiment remarquable. Elle a beaucoup aimé le texte pour commencer. Ça, c'est quand même toujours mieux, je pense. Mais c'est pas toujours le cas. Et en plus, ils prennent pas toujours le temps de lire les illustrateurs de couverture le texte en entier. Mais là, il se trouve que elle l'a fait, qu'elle l'a aimé, et elle a réussi à condenser de façon vraiment très subtile toutes les ambiances du roman. Et en plus, elle a rendu. Donc, mais ça, c'était la demande de départ. C'est pour ça que la direction artistique de Gallimard l'avait contactée. Cette histoire d'ombre et de lumière, puisque donc il y a un théâtre d'ombre très important dans l'histoire, et puis ensuite des histoires d'ombre, alors plus bizarres, on va dire, plus fantastiques, même si pour moi c'est pas ça, c'est plus symbolique, qui se retrouvent au fil du texte. Et en fait, tout ça m'a été inspiré aussi beaucoup par le yin et le yang. Vous voyez ce symbole que tout le monde connaît, donc ce cercle. En noir et blanc, avec une vague comme ça qui sépare le noir du blanc, et puis le petit point blanc dans le noir et le petit point noir dans le blanc. Tout le monde connaît ce symbole qui est donc oriental et qui nous signifie de façon extrêmement belle que sans la lumière, il n'y a pas d'ombre, mais surtout sans ombre, il n'y a pas de lumière, et que tout ça est imbriqué. Et ça, moi, je l'ai vraiment ressenti intérieurement, c'est-à-dire que il y a toujours c'est ce qui semble être en opposition est en fait complémentaire et nécessaire l'un à l'autre, c'est-à-dire que il y a pas de bruit sans silence et il y a pas de silence sans bruit, il y a pas d'amour sans haine aussi, par exemple, même si ça nous défrise, il y a rien sans rien. Bon, c'est un peu idiot ce que je dis, mais quand on le ressent, quand on le vit, ça apaise d'une certaine façon, parce que oui, on a tous fait l'expérience. Bon, prenons par exemple l'exemple de nos parents. Ça va être peut-être moins compliqué que de nos conjoints ou de nos enfants, par exemple. On a tous ressenti cet amour-haine qu'on peut éprouver à l'égard de nos parents. Qui plus est à l'adolescence, je pense, où on est tiraillé entre, on continue d'avoir de l'affection pour nos parents, et puis en même temps, on éprouve des moments de rage ou d'agacement à leur égard, qui nous permettent de nous en séparer d'ailleurs. Et donc ce balancement perpétuel entre ce qui nous semble des oppositions, si on l'accepte, permet de passer de façon beaucoup plus souple de l'un à l'autre sans se crisper. Et reconnaître qu'on peut éprouver parfois, à l'égard de quelqu'un qu'on aime, une sorte de haine, enfin de rejet ou de détestation, par moment, Ben, finalement, si on accepte que c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas, ben, c'est moins grave que si on se dit ben non, je devrais pas, c'est horrible, ça veut dire que c'est terminé, etc. Non, c'est des moments, c'est des passages, c'est parce que tout est lié. Donc j'avais envie d'explorer ça, et les ombres me semblaient être un bon symbole pour ça. L'ombre, c'est tout ce qu'on cache, c'est tout ce qu'on veut pas voir, c'est tout ce qui est refoulé. Bon, ça, c'est vraiment du langage très simple, mais de psychanalyse. Donc Jung, dont j'ai beaucoup apprécié l'expertise, parle volontiers de ces ombres comme étant, alors justement, c'est là où c'est intéressant, le gisement, d'où la forge, la mine, etc., le gisement où se trouve à la fois tout ce qu'on ne veut pas voir de soi-même, mais aussi toutes nos potentialités inexplorées. Et là, c'est dans les ombres qu'on va avoir des choses qui surgissent, qui sont monstrueuses, qu'on n'aime pas voir, mais également toute une richesse qu'on ne soupçonne pas. Et quand on va dénicher peut-être un peu le monstrueux, le pas beau, le franchement moche, on sort également avec soi des richesses incroyables qui nous permettent d'aller peut-être plus loin vers qui on a envie de devenir, vers ce développement lumineux de nos potentialités qu'on a tous. Mais ça suppose d'aller creuser, quoi. Et on n'a pas toujours envie de le faire, et c'est difficile, et ça fait peur, etc. Donc j'ai utilisé ces ombres et cette forge et ces endroits sombres comme ça et très souterrains pour raconter une expérience que j'ai faite moi, en fait, de façon très intime, et qui me semble être tout à fait transmissible sous cette forme du conte et de la... Ouais. C'est la force des contes, c'est-à-dire que les contes, on le sait, nous parlent de notre intériorité la plus intime sous forme d'histoire. Tout à fait transmissible à des enfants. Donc, c'est voilà, il y a des actions, il y a des lieux, il y a des personnages, etc. Mais on peut en faire une lecture à un autre niveau qui va être qui va retentir en nous bien au-delà de l'enfance, quoi, largement. Et c'est pour ça qu'ils sont universels. Donc voilà, il y avait cette envie là.
Oui, l'ombre est vraiment très présente. Il y a l'ombre de l'oiseau qui dit un peu le passé mystérieux que ne veut pas affronter Beau. Donc, il remonte à son enfance. Et les ombres de Tsel, donc un personnage. Tsel est une petite fille qui projette derrière elle, quand elle est exposée à la lumière, des ombres qui ne sont pas la sienne. Je trouvais cette idée d'une poésie et en même temps d'une force intense. Parce que, évidemment, ça lui fait peur, ça terrifie son entourage. Ça peut faire rire aussi, par moments, suivant comment c'est accepté, justement, ou pas. Et il y a les ombres projetées donc, dans le feu de la forge par Beau qui essaie de trouver une solution pour sa bien-aimée. Donc, c'est tout un univers. Tu viens de le dire, un univers qui est propice à plein de lectures différentes, à des niveaux différents. Donc, on sent l'inspiration, les échos du chamanisme aussi.
Aussi. Voilà, vous avez donc dit que c'était dense, hein. Il ne faut pas que ce soit indigeste.
Ce n'est pas une heure qu'il nous faudrait, mais deux. Et il y a le thème de la main, donc, qui est l'hommage à la condition ouvrière, et puis peut-être la représentation de tout ce qui fait l'humain aussi.
Oui, alors c'est vrai que là-dessus, pour être très prosaïque, là, je suis obligée de dévoiler quelque chose pour raconter cette anecdote.
Mais c'est pas interdit non plus.
Mais tu vas peut-être pas être contente.
Non, mais si.
Bon, lors de cette catastrophe industrielle dont on a effleuré tout à l'heure un petit peu le démarrage, et puis dont on a déjà parlé, un des personnages va perdre une partie de soi. Je savais qu'il y avait un personnage qui allait être blessé, et je voulais que ce personnage perde l'usage d'un membre. Et donc, quand j'en suis arrivée à ce moment-là, bon là je rigole parce que c'est pas très rigolo dans le livre, mais dans la cuisine qui le précède, ça peut être marrant. Donc j'étais là, je me disais, bon alors qu'est-ce que je lui enlève, de quoi je l'ampute? Et ça peut être assez drôle de se dire ça, c'est-à-dire qu'on est, on est pilote de son histoire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je ne suis pas aux commandes, j'ai l'impression que les personnages prennent le pas, le relais, enfin, ce n'est pas moi qui suis complètement maître à bord, puis il y a des moments où je suis quand même très décisionnaire. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais pouvoir de quoi je vais pouvoir amputer mon personnage ? Donc, j'ai réfléchi, est-ce que je lui enlève un pied, une jambe, la tête, c'était difficile, bon, donc j'ai laissé de côté, etc. Et finalement, j'ai pensé aux mains, et carrément, j'ai enlevé les deux mains, quoi. L'accident provoque la perte de ses deux mains, et ça m'a semblé atroce. En même temps, ça ne l'empêchait pas de marcher, comme le dit plusieurs fois l'autre personnage, mais les mains, c'est notre... là, c'était symboliquement la priver de toute prise sur sa vie, enfin, et notamment du pouvoir de fabriquer des choses, parce qu'elle raconte justement qu'elle a toujours aimé fabriquer des choses. Et comme dans ma famille, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui avaient travaillé de leurs mains dans les générations d'avant, ça voulait dire crever de faim, enfin, je suppose. Et en même temps, voilà, il y avait la possibilité ensuite dans l'histoire de récupérer une sorte de fonction identique, mais bon, voilà, sans que ce soit les mains d'origine. Donc j'ai opté pour ça, voilà, pour cette amputation des mains. Les mains, c'est aussi, voilà, c'est le symbole de notre maîtrise. Je crois que le mot maîtrise vient de la même racine, la maîtrise qu'on a sur sa vie, et que parfois on maîtrise plus rien, quoi. Et quand on maîtrise plus rien, parfois les choses, faut accepter aussi. Et elle fait tout un chemin, Ama, pour accepter de ne plus maîtriser ce qu'elle maîtrisait auparavant, et pour aller petit à petit, peut-être vers une nouvelle transformation d'elle-même, quoi.
C'est un livre qui est très habité aussi par le thème du départ, de la route. Est-ce que partir, c'est grandir ?
Alors, en fait, ça se retrouve, je crois, dans tous mes livres. Oui. Dans tout, ça, je m'en suis rendu compte maintenant à force. C'est-à-dire que dans tous mes livres, les personnages, à un moment donné, s'arrachent, partent. Alors, c'est un fantasme que j'ai. Parce que moi, personnellement, je suis à peine partie, géographiquement, j'entends. Hein, parce que sinon, pour le reste, je suis pas mal partie. Mais sinon, géographiquement, j'ai fait peut-être, dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé, mais dans un périmètre, je pense, de 10 km carrés à peine. Donc, c'est vraiment microscopique. Je ne suis pas une grande aventurière à ce niveau-là, mais je me le suis fantasmée beaucoup. Quand j'étais môme, j'adorais les récits de voyage. J'avais donc une fascination pour les planisphères. J'avais demandé ça pour mes 10 ans, je me souviens, un planisphère géant à coller sur mon mur. Et je passais des heures à rêver devant ces cartes, à me dire j'irai là et là et là et là, et à apprendre par cœur les capitales et les sommets des montagnes et les noms des fleuves. C'était d'une poésie absolue. Donc je suis nourrie par ce désir de voyage qui n'est pas très assouvi, mais qui, je pense, est le terreau aussi de mes histoires. Il faut garder des fantasmes non réalisés, sinon c'est pas drôle. Voilà, je me rends compte que mes solutions, quand mes personnages sont dans le pétrin, c'est de partir, ouais.
Donc parfois vers un horizon dégagé, parfois vers un horizon plus incertain, voire obscur. En tout cas, c'est un roman qui possède une pulsion de vie incroyable. C'est un roman qui invite à vivre, à croire, à espérer,
merci,
à aimer. Et c'est un roman donc qui, à mon avis, et j'en ai déjà la preuve, je pense que toi aussi, convainc autant et séduit et fait rêver et emporte autant les ados que les plus âgés.
Oui, alors pour l'instant, ouais, j'ai plus de témoignages de lecteurs plus âgés, jeunes adultes et adultes, que de plus jeunes, parce que dans les milieux plus concernés par le scolaire, la pénétration du livre est plus lente. Ouais. C'est-à-dire que voilà, dans les CDI, tout ça, il faut le temps de commander les livres et puis ensuite de les faire circuler. Donc pour le moment, je n'ai pas encore rencontré de classe, notamment, qui auraient lu le livre, mais ça se produira un petit peu plus tard. Donc, pour le moment, les lecteurs sont plutôt des individus un peu plus âgés. Mais ce qui, moi, me touche beaucoup, parce que j'ai aussi le sentiment d'accompagner ces lecteurs-là. Alors, il y a eu ce gap de 5 ans qui fait que les lecteurs qui m'avaient éventuellement suivi sur Le Temps des Miracles, qui avaient peut-être 13 ans, aujourd'hui, ils en ont 18. Ouais. Donc, peut-être qu'on peut se retrouver, quoi. C'est une sorte de petit rendez-vous plutôt sympa. Et donc, j'espère, oui, qu'il va être perçu, comme tu l'as dit, comme une invitation à se développer, à croître, à aller plus loin vers la vie. C'est pour ça que j'étais contente qu'il y ait le mot. Parce qu'au début, oui, un des titres, tu m'as posé la question tout à l'heure, un des titres potentiels, c'était « Nous ne sommes pas morts ». Et en fait, je l'ai basculé dans l'autre sens, quoi. Tant que nous sommes vivants, c'est quand même mieux que nous ne sommes pas morts. C'est plus juste par rapport à ce que contient le texte. Ouais. Parce que oui, il y a des éléments un peu noirs et tout ça, donc il faut aussi les encaisser, on va dire. Mais au fond, il y a cette énergie du désir de vivre et qui me semble être ce qui sous-tend le texte. Donc merci de l'avoir perçu.
Avec plaisir. Donc c'est un roman crépusculaire, mais avec énormément de lumière. Vous saurez dans ce roman que l'amour est un exercice de haute voltige.
Absolument.
Qu'il est bon d'accepter l'étrangeté de l'être aimé. C'est un roman qui pourrait être presque une leçon de sagesse, puisqu'il y a pas mal de philosophie. En tout cas, il y a un vrai amour de la vie qui passe entre ces pages. Je vais vous remercier pour votre écoute. Et j'espère à très bientôt, puisqu'il y a un projet en préparation avec Monsieur Jean-Claude Morlevin, roman à quatre mains, pour mars.
Qui sortira au mois de mars, alors là, cette fois-ci, en littérature générale, qui n'exclura pas les plus jeunes. Mmh. Enfin, en tout cas, évidemment, aucune personne de cette salle, hein, puisqu'il n'y a pas de tout jeune quand même. Mais bon, il n'y aura pas de contre-indication pour des ados qui auraient envie de découvrir aussi. Mais là, bon, voilà, en littérature générale, écrit avec Jean-Claude Morleva, un roman épistolaire qui va s'appeler « Et je danse aussi ».
Joli titre, plein de promesses. Ce que je vous propose, c'est de faire un triomphe à Anne-Laure Bondou pour l'inciter à revenir très vite.